France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai l'écrivain Pascal Quignard pour son nouveau roman Trésor caché qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Mais vous le savez, tout commence au midi par un débat critique. Aujourd'hui, nous allons soumettre à nos critiques deux expositions. Heinz Berggruen, un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse et Giacometti qui se visitent jusqu'au 27 janvier au musée de l'Orangerie à Paris. Et Jacques Prévert, rêveur d'images au musée Montmartre jusqu'au 16 février. Deux hommes, deux constellations d'artistes. Et pour débattre aujourd'hui, pour cette première critique exposition 2025, Sally Beaune, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes maître de conférence en esthétique à l'université Picardie-Jules Verne et critique d'art. Vous êtes cette fois-ci virtuellement à nos côtés, alors n'hésitez pas à vous manifester, Sally, quand vous avez envie de participer à ce débat. Et Stéphane Coréard, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes vraiment là, en face de moi, et je vous en remercie. Et on vous lit dans le Journal des Arts. Bienvenue à tous les deux.
Ça va mal. Ça va très, très mal. C'est très mauvais. J'arrache tout. Maintenant que je vois à peu près où j'en suis, je vais prendre une toile neuve et je recommence tout.
Alors, c'est sur ces mots de Picasso, vous l'aurez reconnu. On commence avec l'exposition Heinz Berggruen, sous-titrée « Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti ». C'est à l'Orangerie à Paris, exposition organisée en collaboration avec le Muséum Berggruen de Berlin. On y découvre une centaine de chefs-d'œuvre qui démontrent le rôle clé de ce collectionneur dans le marché de l'art du XXe siècle. Alors, tout commence, vous le savez, par un premier avis. Stéphane, qu'avez-vous pensé de cette exposition ?
Oui, alors la collection n'est pas le reflet de son activité de marchand, car de manière assez curieuse, elle se concentre uniquement sur 6 artistes. C'est le cas de l'exposition parisienne, mais c'est le cas de la collection telle qu'elle est présentée effectivement à Berlin. Et elle est largement dominée par Picasso. 46 œuvres sont présentes à Paris. Et cette exposition, donc, justement, acte le fait que Picasso est vraiment celui qui a dominé tout l'art du XXe siècle, en tout cas la peinture, on va y revenir. Mais l'accrochage est néanmoins très réussi parce qu'il le met vraiment en relation avec ses contemporains, et notamment avec Paul Klee, qui est l'autre artiste phare de la collection Berggruen et de l'exposition, présent avec plus d'une vingtaine d'œuvres, ce qui est assez rare à Paris. Et ce qui rend cette exploration de cette collection particulièrement passionnante aussi, je trouve, c'est dans le contexte de l'Orangerie, qui est un musée qui dépend du musée d'Orsay, qui est dans le parc des Tuileries, et qui lui-même abrite la collection d'un autre marchand, Paul Guillaume, dont la relation avec un de ses artistes, Modigliani, a fait l'objet il y a un an d'une exposition au même endroit, avec un titre miroir, qui était un peintre et son marchand. Et c'est assez passionnant de voir comment les marchands ont écrit l'histoire de l'art du XXe siècle, et c'est ce que permet de découvrir cette exposition.
Sally Beaune, quelles sont vos premières impressions à vous sur cette exposition ?
Alors, c'est une exposition très impressionnante, tant par la qualité des œuvres des artistes qui sont présentés, dont effectivement, comme l'a dit Stéphane, une partie de la collection en fait, mais aussi par la démonstration qu'elle fait de la finesse de goût du marchand collectionneur Heinz Berggruen.
Alors Stéphane,
il y a vraiment des chefs-d'œuvre incroyables. Hein. Enfin, il y a des très très belles œuvres à voir.
Stéphane, est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer cette dispute nous rappeler qui est Heinz Berggruen ?
Heinz Berggruen, c'est un jeune homme qui naît en 1914 en Allemagne, qui doit quitter l'Allemagne à la fin des années 30, qui part s'installer aux États-Unis, où il va être naturalisé américain et faire la guerre contre son propre pays. Ce contexte est passionnant. Il va ouvrir sa galerie et devenir marchand d'art après la Deuxième Guerre mondiale. Donc les guerres jouent un rôle majeur dans sa vie et dans cette aventure artistique. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est un contexte artistique qu'on retrouve totalement dans l'exposition. La première salle est totalement dédiée au cubisme. C'est la seule salle, je dirais vraiment chorale de l'exposition, qui réunit des chefs-d'œuvre de Picasso et de Braque de la période cubiste, avec aussi une petite aquarelle de Cézanne, une pomme. Et c'est vraiment la matrice esthétique, intellectuelle, historique de cet homme qui est Heinz Berggruen. Et à partir de là, l'exposition va finalement se déployer en deux fils parallèles, et on va voir comment Berggruen arrive finalement à réunir ces deux tendances, deux grandes tendances de l'art du XXe siècle, qu'il réunit en une seule. En fait, la première, c'est dans la lignée du portrait de Madame Cézanne, vers 1885, qu'il a acheté en 1960. Et il en disait, c'est une œuvre riche et discrète à la fois, d'une mystérieuse profondeur et d'une émouvante modernité. Donc là, effectivement, on est dans cette ligne à la fois émouvante, mystérieuse, d'une modernité assez finalement douce, je dirais, et qui va se déployer notamment à travers Matisse, Giacometti, aussi une peinture un peu métaphysique, une peinture, une sculpture métaphysique. Et puis, le second fil, plus dur peut-être, c'est à partir d'un sublime Picasso, un buste de femme nue, qui est une étude pour les Demoiselles d'Avignon de 1907, explore une voie, je dirais, plus radicale, celle d'une modernité de rupture, celle peut-être qui est plus, qui incarne mieux le XXe siècle pour nous, plus expressionniste, à travers justement l'œuvre de Picasso, dont Berggruen disait que c'était un homme qui, comme aucun autre, avait incarné tout un siècle. Alors chacun de ces deux fils donne lieu à des dialogues convaincants qui sont servis par la grande qualité des œuvres, comme Sally l'a dit, avec des chefs-d'œuvre incroyables, parce que toutes les œuvres ont été sélectionnées avec le plus grand soin par un marchand à la fois éclairé et exigeant, ce qui n'est pas si fréquent, non pas que les marchands soient éclairés et exigeants, mais parfois des marchands ont choisi de ne pas se mettre en concurrence avec leurs collectionneurs. Là, ce qui est un petit peu unfair, je dirais, c'est que Berggruen a gardé certains des chefs-d'œuvre pour lui, et la première surprise de
l'exposition... Il dit d'ailleurs que c'est lui son meilleur client.
Oui, c'est le titre de ses mémoires. En effet, souvent on dit que les marchands font des collections avec leurs invendus. Lui s'est réservé clairement certains chefs-d'œuvre qu'il a même traqué pour certains toute sa vie. La première surprise de l'exposition, c'est que si on savait que Picasso est un virtuose absolu, Paul Klee, dans l'exposition, se révèle à la fois si divers, si protéiforme, que ses œuvres peuvent dialoguer en fait avec toutes les autres œuvres de l'exposition, aussi bien des œuvres cubistes, il y a notamment une perspective de Sade à la Porte sombre de 1921, qui tient parfaitement à côté des Braques et des Picasso, mais aussi avec des œuvres beaucoup plus expressives qui, elles, vont dialoguer avec les portraits de Doramar ou de Nouche peints par Picasso dans les années 30.
Alors, Sally, on parle de Picasso, de Matisse, de Klee, de Giacometti. Ce sont des œuvres qu'on peut voir dans nos musées. Quel est l'intérêt d'exposer cette collection? Est-ce que l'ensemble dit quelque chose que les œuvres seules ne disent pas?
Alors, c'est une question intéressante parce que c'est ce que pose toute question qui interroge l'idée même de la collection et la possibilité qu'on ait une sorte d'œil. Alors, je ne suis pas absolument certaine qu'il soit nécessaire de tenter de définir un goût, Berggruen, mais il y a quand même une chose qui m'a frappée dans l'exposition. Stéphane a parlé de douceur et je trouve qu'il y a quelque chose qui traverse l'ensemble de l'exposition à travers quand même des œuvres, ça a été dit, extrêmement diverses, hein. C'est l'importance de la couleur. Et notamment, une espèce de vivacité douce, pardon pour l'oxymore, des couleurs des œuvres. Donc, on a aussi bien les œuvres de Klee, dont effectivement on sait cette douceur colorée qui provient de l'aquarelle, un paysage en bleu qui est celui qui fait l'affiche de l'exposition qui date de 1917, hein, qui est un paysage coloré comme recouvert d'une fine couche de bleu. Des compositions géométriques qu'on connaît aussi de Klee, notamment une montagne bleue de 1919, mais qui est aussi verte, rouge et orange. La grille légèrement tremblée, tout en transparence jaune, verte, rose, orange et bleu, d'une œuvre graphique dont le titre est magnifique, c'est Architecture de la plaine, qui date de 1923. Et tout ça à côté d'œuvres de Picasso, par exemple le bleu sourd d'une scène de café-concert de 1902, le rouge profond, mais aussi un peu passé d'un arlequin assis 1905. Aussi, les compositions absolument magnifiques des cubistes avec des cartes à jouer, des dés, des bouteilles, des verres, des guitares. Par exemple, Majoli en 14, Homme assis à une table en 1916, Nature morte avec guitare bleue en 24. Et aussi, bien sûr, les papiers découpés de Matisse, dont on sait tout l'intérêt pour la couleur, hein, et avec aussi quelques tableaux, le rouge intense d'un cahier bleu, le bleu d'un intérieur à étretat, etc.
Mais est-ce qu'elle dialogue entre elles, ces œuvres, Sally?
Alors, finalement, l'expo est conçue par des grands ensembles thématiques, hein, un monde de choses, la question des visages, la question de la figure humaine et des territoires abstraits, et en même temps, c'est comme traverser de moments monographiques. Et au fond, en fait, il me semble que ce dialogue entre des œuvres, d'abord, l'expo est très agréable à visiter parce qu'elle est très aérée et que justement, elle travaille cette interrelation entre les œuvres, entre les artistes et entre les périodes. Donc, il y a vraiment ce dialogue qui se fait, notamment par, d'un point de vue purement scénographique, des trouées, en fait, entre les salles qui permettent de traverser les espaces et de voir en même temps un Klee, un Picasso, un Giacometti, un Matisse, etc.
Stéphane, est-ce que c'est une exposition qui célèbre les œuvres de ces artistes dont vous citez, accrochées au Cimez, ou l'œil d'un connaisseur ?
Alors, évidemment, les deux. Pour compléter ce que vient de dire Sally, mais je pense que ça répond aussi à votre question, on a l'impression que en se limitant à un nombre restreint d'artistes, Berggruen essaie de résumer le XXe siècle et de montrer que ses œuvres ne s'excluent pas, mais au final peuvent effectivement dialoguer et former un tout finalement qui serait ce mystérieux art du XXe siècle. Et l'exposition le montre, je trouve, de manière très subtile, parce que c'est absolument pas didactique, mais les œuvres s'imposent. Par exemple, dernier dialogue dont je voudrais parler, c'est un grand dessin de Matisse, un nu couché, Lorette, 1917, qui dialogue à quelques mètres d'intervalle avec un grand tableau de Picasso, un grand nu couché de 42, qui lui est une huile, mais aux couleurs sourdes et terreuses qui font absolument écho au fusain. Et ces deux femmes allongées, une plus cubiste, une plus peut-être naturaliste, finalement se disent beaucoup de choses. Mais l'œil de Berggruen, effectivement, est absolument sûr. C'est-à-dire aucune des œuvres, franchement, n'est médiocre, convenue, accidentelle ou n'aurait pas sa place ici. Chacune recèle cette part de cette mystérieuse profondeur et de cette émouvante modernité qu'il y cherchait. Mais je pense que ça témoigne surtout de deux très rares qualités, très audacieuses finalement pour son temps, qu'à la suite peut-être de quelques grands pionniers du XXe siècle, dont Anne Weller, je pense Berggruen a incarné au plus haut point. C'est finalement le premier à avoir vraiment appliqué aux arts visuels ce qu'on a appelé dans le cinéma la politique des auteurs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se passionne pour des artistes dans leur entièreté. Et ça se traduit comment ? D'abord, il place les œuvres graphiques, c'est-à-dire dessins et même lithographies, au même rang que les peintures. Et l'accrochage les mélange, à juste titre. Ce qui est très rare, parce que même dans les musées, souvent, il y a le cabinet art graphique d'un côté, et puis la peinture de l'autre. Chez Picasso, par exemple, des œuvres sur papier, comme l'Arlequin acide 1905, sur un fond monochrome rouge, ou la tête de faune, etc., n'ont rien à envier aux toiles des mêmes époques. Et c'est ce type d'acuité qui a permis à Berggruen de s'intéresser à des pans entiers de l'œuvre de certains artistes qui étaient un peu négligés par d'autres, que ce soit justement les estampes, mais aussi les papiers découpés de Matisse, dont il était un des premiers à ressentir l'importance. Parce que cette intuition de la politique des auteurs, ça le conduit à s'intéresser à tout ce que produit un artiste et à tout placer au même niveau. Ainsi, par exemple, pour Matisse, qui est représenté ici par des sculptures qui sont plus rares dans son œuvre. Et c'est aussi là-dessus qu'il a construit sa stratégie commerciale, puisque on sait que sa galerie, qui était rue de l'université principalement, s'est largement dévolue aux estampes, et que c'est avec ses catalogues d'estampes et ses expositions récurrentes qui faisaient des grands maîtres de l'estampe qu'il a pu diffuser l'œuvre de ses artistes et asseoir sa réussite commercial.
Sally, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'origine des œuvres ? On sait que c'est une période où l'origine pose question parfois sur certains tableaux. Est-ce qu'elle est précisée ? Comment on s'en sort dans cette exposition-là sur l'origine ?
Alors, il se trouve que Berggruen, et c'est une chose que je voulais peut-être ajouter et compléter par rapport à ce que disait Stéphane à l'instant, c'est que le goût de Berggruen, il se forme dans un rapport intime, en fait, aux œuvres et aux artistes. Il les rencontre. Il rencontre Picasso par l'intermédiaire d'Éluard, par Zara, il rencontre Matisse. Le seul qu'il n'ait pas rencontré, c'est Klee, mais il est vraiment dans un rapport intime avec les auteurs, effectivement, les artistes et leurs œuvres. Il les connaît, il les rencontre, il les suit et il les accompagne. Et c'est vrai que ce que montre aussi l'exposition, c'est cette traversée en fait de l'œuvre d'un artiste depuis, pour Picasso, depuis les œuvres du tout début du XXe siècle, 1902, jusqu'aux années 60. Idem pour Matisse, idem pour Klee. C'est, sur une période plus courte puisque Klee est mort en 40. Donc il est vraiment dans un rapport d'accompagnement en fait. Avec les artistes, et souvent il achète soit directement aux artistes, soit il travaille pour récupérer des œuvres, parfois par des échanges. Alors il y a aussi la constitution de sa collection qui s'est quand même, elle s'est un peu figée dans les années 90 sur ce goût en fait que montre l'exposition, parce que progressivement il revend des œuvres, donc il se débarrasse de Seurat, de Van Gogh aussi, pour, d'une certaine manière, concentrer en fait sa collection. Bon, principalement, on l'a dit, Picasso et Klee sont les artistes majeurs et principaux, mais aussi autour desquels gravite Cézanne, parce que Cézanne, comme Klee, pour lui, un des fondateurs de la modernité. Il y a d'ailleurs une petite aquarelle de Cézanne qui est une nature morte avec une pomme. D'ailleurs, très étrangement. Montré à l'envers dans le catalogue, c'est un peu surprenant parce qu'on ne sait plus si c'est dans l'exposition que le tableau serait à l'envers ou dans le catalogue. Mais voilà, c'est un petit bijou. Et donc, il traverse comme ça le siècle, des pommes de Cézanne jusqu'aux œuvres de Giacometti et de Matisse les plus récentes. Il a travaillé à les récolter d'une certaine manière, soit par des achats, soit par des échanges, directement auprès des artistes ou auprès d'autres collectionneurs.
Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, effectivement, je vais revenir un peu sur cette question de la provenance des œuvres, parce que l'exposition s'appelle « Un marchand et sa collection ». En réalité, la partie du marchand et de l'homme même est largement, je dirais, en demi-teinte par rapport à la collection. Et la dernière salle qui est plus consacrée à lui, à son activité de marchand, qui a débordé très largement ces six artistes-là, évidemment. Et la collection est comme un mausolée un peu figé, c'est-à-dire qu'il a lui-même voulu raconter un peu sa propre légende. Néanmoins, il y a des points, je trouve, de perspective qui manquent d'explication. Par exemple, il y a un collage de Matisse pour un projet d'affiche pour une exposition chez Berggruen en 1953 de papier découpé. Et dans son propre nom, l'artiste Henri Matisse a remplacé dans la graphie les deux S de son nom par quasiment le sigle SS, ce qui, 8 ans après la fin de la guerre, de la part d'une exposition chez un juif allemand émigré dont une partie de la famille a péri dans les camps de concentration, etc., me laisse totalement pantois et j'étais un peu surpris qu'il n'y ait aucune explication là-dessus. En tout cas, c'est une exposition sublime qui laisse effectivement des points d'interrogation, mais qui mérite absolument d'être vue pour la concentration de chefs-d'œuvre et le magnifique accrochage des scénographies.
Eh bien, pour la voir, Heinz Berggruen se visite jusqu'au 27 janvier au musée de l'Orangerie et un catalogue est disponible en coédition Musée d'Orsay et Orangerie.
Il était une fois un petit garçon qui n'était pas gai. Il n'y avait pas beaucoup de soleil là où il habitait. Il n'avait jamais connu ses parents. Il vivait chez des gens qui n'étaient ni bons ni méchants. Ils avaient autre chose à faire. Ils n'avaient pas le temps. Il y avait une autre fois un petit garçon qui souriait très souvent la nuit, en dormant. C'était une autre fois, mais c'était le même petit garçon. On l'appelait Michel Morin, le petit garçon de la lune, parce que lorsqu'il avait la lune, il était content. « Je la connais, disait-il, on est amis tous les deux, et même quand elle ne vient pas le soir, je n'ai qu'à fermer les yeux, et je la vois dans le noir de la nuit. Elle est toujours là pour moi, et quand je dors, j'ouvre tout grand les yeux en dormant, et je me promène avec elle. Elle me montre des choses très belles dans mon sommeil. Par exemple, lui demandaient les gens. « Le soleil, répondait Michel Morin. » Et il s'endormait en souriant.
C'est Jacques Prévert que nous venons d'entendre. Et à l'occasion du centenaire du surréalisme et du 70e anniversaire de l'installation de Prévert à la Cité Véron, le musée Montmartre célèbre le poète, bien sûr, mais aussi l'artiste dans toutes les largesses de sa création. Sally, un premier regard sur cette exposition Prévert ?
Très joyeuse, vive, vivante, douce aussi, du travail de toute une vie. Et c'est aussi ça la particularité, hein. C'est une sorte de biographie par les images et les œuvres de ce conteur merveilleux qu'est Prévert, et que l'exposition contribue à sortir de l'enfance dans laquelle on le ramène souvent. Parce que si pour lui l'enfance de l'art est importante, elle est aussi parfois, et on le voit dans ses collages, mordante et subversive.
Et vous, Stéphane, avez-vous été séduit par cette proposition ?
Ah bah complètement, c'est un rattrapage indispensable pour compléter le panorama surréaliste de l'année 2024 qui vient de se terminer, parce que Prévert est l'icône d'un surréalisme à visage humain qui n'a pas hésité à se colter directement avec la culture populaire. Et donc, l'exposition non seulement explore ses relations avec les arts visuels, qui sont passionnantes, mais aussi le réhabilite lui-même en tant qu'artiste, parce que la vaste présentation de ses propres collages permet, on va y revenir, de comprendre et de mesurer son apport à cet art majeur du XXe siècle et qui est éminemment surréaliste.
Alors Sally, nous connaissons le Prévert poète, parolier et scénariste, mais cette exposition rend hommage à toutes les facettes artistiques de cet homme. Quel type d'artefacts, très concrètement, sont présentés dans l'exposition ?
Alors, comme je disais, c'est une sorte de biographie par les images et par les œuvres, c'est-à-dire qu'on traverse la vie de Prévert, on traverse les différents moments, et c'est ça qui est intéressant aussi, hein, de son œuvre et de sa vie. ses collaborations surréalistes, son engagement dans le théâtre ouvrier du groupe Octobre, l'écriture de scénarios de cinéma, ses amitiés littéraires et artistiques qui sont extrêmement importantes parce qu'il va contribuer à des livres d'artistes, et ses nombreux collages et dessins, et c'est ça surtout qu'on voit. Donc il y a une diversité très riche des œuvres présentées. On a des photos, des documents, des scénarios illustrés, des œuvres, des livres d'artistes, les œuvres des artistes sur lesquels Prévert a écrit, ses collages et ses dessins. Alors, il y a une chose absolument fascinante, c'est d'abord que, comme Prévert est une sorte d'autodidacte en tout, il fait montre d'une liberté, d'une très grande liberté et d'une liberté très joyeuse. Et dans chacun de ses domaines, il exerce une grande créativité qu'il développe, et j'ai été absolument fascinée, moi, non seulement par les collages dont on parlera peut-être plus tard, mais par les scénarios illustrés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son travail autour du cinéma. On sait qu'il a écrit des scénarios de cinéma dont les dialogues sont restés extrêmement célèbres, mais parallèlement à l'écriture de scénarios, en fait, il étendait sur un mur avec des punaises des grandes feuilles de papier sur lesquelles il décrit certains des personnages, et à côté de ces petites notations, il y a des gribouillages, des dessins des personnages, des dessins de décors. Par exemple, le scénario illustré des Enfants du Paradis, c'est à l'encre et au crayon de couleur, on découvre les noms de quelques personnages, un décor du théâtre Les Funambules, une note sur la pantomime, un dessin d'acrobate, des petits diables, et puis des formules comme ça, cette mention, dernière nouvelle, Jésus-Christ est parti sans laisser d'adresse. Ou encore celle-ci, près d'un trou de cendre, merde à celui qui l'ira. Donc il y a cette espèce de vivacité, cette qualité aussi d'entremêler, d'entrelacer le texte et les images, qui est vraiment l'œuvre de la vie de Prévert. C'est-à-dire depuis ses premières élaborations surréaliste jusqu'au collage, qui se lisent comme des rébus, vraiment dont le sens en fait se lit à travers une compréhension qui est de l'ordre de la lecture. Et en fait, on est dans un entrelacement et un dialogue permanent entre le texte et les images qui se traduit aussi bien dans son propre travail que dans ses collaborations avec des artistes, puisque les livres d'artistes qui sont présentés et qui sont absolument magnifiques, c'est avec Picasso, Miro, Calder, Braque, Chagall ou Marx.
Mais alors, Ernst. Justement, Stéphane, quelle est la place de l'amitié dans cette œuvre de Prévert ?
Eh ben, c'est en fait ce qu'on voit dans le premier. Enfin, elle est partout d'ailleurs, parce qu'elle est dans les deux étages. Le premier étage nous montre effectivement Prévert dans son milieu, je dirais, avec ses amitiés artistiques et notamment avec des artistes visuels. Elle commence d'abord, c'est très important, au début des années 20, dans un endroit qui est devenu mythique finalement, qui est le phalanstère de la rue du Château, dans le quartier le plus populaire de Montparnasse, où quand même ont habité en communauté, je dirais, non seulement Prévert, mais aussi Yves Tanguy, Marcel Duhamel, le futur créateur de la série noire, Benjamin Perret. Aragon y a vécu, et aussi Georges Sadoul, le critique de cinéma. Tous ces gens-là ont vécu ensemble, et André Breton lui-même a dit qu'on y trouvait le véritable alambic de l'humour au sens surréaliste. C'était une période extrêmement folle, extrêmement libre. Il y a un tableau stupéfiant de Yves Tanguy qui, je crois, est montré pour la première fois, qu'il a peint en 1925 avant d'avoir la manière qu'on lui connaît, qui s'appelle le Testament de Jacques Prévert, et qui a été emporté par Georges Sadoul quand il a quitté la rue du Château, et qui témoigne en fait de cette atmosphère complètement folle, libre, libertaire. C'est là où a été inventé aussi le cadavre exquis, le jeu surréaliste du dessin que quatre personnes font successivement à partir de quelques traits.
Comment elle se place, cette œuvre de Prévert, dans le mouvement surréalisme ?
Eh ben justement, ce que je trouve un peu dommage finalement, c'est que ce qu'on découvre, mais trop en filigrane, c'est que Prévert serait le chef de file d'une espèce d'itinéraire bis du surréalisme. C'est-à-dire, parlait de la série noire de Duhamel, il y a eu les chansons, les livres pour enfants, le cinéma avec Prévert, il y a aussi eu les gags dessinés de Maurice Henry, etc. Ce qui montre que la rue du Château a été le creuset de cet itinéraire bis qui n'avait donc, comme je le disais, pas peur de se colter avec la culture populaire, là où les surréalistes, canal historique je dirais, en restaient à distance, même s'ils professaient un amour pour Fantomas, etc. Finalement, ils ne s'y sont jamais collés eux-mêmes. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs un livre qui vient de paraître de Charlotte Servelle aux éditions Mimesis qui s'appelle Le cinéma burlesque burlesque, une autre origine du surréalisme qui justement explore un peu cette veine. Parce qu'il faut savoir que Prévert, jusque dans les années 40, ne publie quasiment pas. Il publie pas de recueil, c'est René Berthelet qui va publier Parole en 46 et qui va faire de Prévert le poète le plus lu. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai retrouvé une citation d'ailleurs de Prévert parlant de la rue du Château. Il dit, Breton disait de la rue du Château qu'il n'avait pas vu pareille atmosphère de liberté. Il y avait un peintre, Yves Tanguy, qui n'avait jamais peint, un mécène, Marcel Duhamel, qui était alors directeur d'hôtel, et moi qui ne foutais rien, dit-il. Il foutait pas tout à fait rien, en fait. Il était dans ce creuset qui se déploie dans la deuxième partie de ce premier étage, avec effectivement ses collaborations sur des livres. Quelques livres, malheureusement un choix plus restreint parce que le lieu est un peu exigu.
Oui, le musée n'est pas très grand.
Voilà, il y a quand même un ensemble autour de Picasso, encore lui, qui est merveilleux, où on retrouve Berggruen, puisqu'il y a l'intégralité du livre Diurne, qui est fait à partir de collages de Picasso, transformés par la photographie par son complice André Villers, avec un texte de Prévert, édité par Berggruen en 62. Mais ce dialogue avec Picasso, il est incessant. Il y a des portraits de Picasso par Prévert, de Prévert par Picasso. Il y a des dédicaces qui sont folles de fantaisie et d'humour. Et puis autour de Calder, effectivement, il y a notamment un sublime mobile dédicacé par Calder à Prévert et une grande gouache.
Sally, un dernier mot avant de finir cet entretien. Vous vouliez revenir sur les collages.
Oui, parce que les collages, il y a quand même une nature à la fois ludique et intuitive du collage dont se sert en fait Prévert tout au long de sa vie. C'est-à-dire que ça démarre en 1948 parce qu'il fait une chute grave. Il a fait 10 jours de coma et donc c'est pour lui un exercice de rééducation manuelle et intellectuelle. Ces collages sont rarement datés. D'autant plus, je dirais que en fait, il mêle des périodes historiques, des modes de représentation. Il emprunte effectivement au journal illustré. Il emprunte à l'histoire de la peinture. C'est des figurines découpées dans des magazines, des chromos, des cartes postales. Il mélange des gravures de Piranèse avec des vignettes publicitaires. Tout ça avec toujours une espèce d'humour. Très, très corrosif, hein, le fameux sublime et corrosif qui fait partie d'un de ses collages, justement. Il joue sur des déplacements géographiques, des satires. Il se moque très largement parce qu'il est, c'est un très grand anticlérical. Donc, en fait, il se moque des papes, de la religion, de toute forme de pouvoir et d'institution. Notamment une petite dénonciation qui s'appelle « Laissez venir à moi », parce qu'on commençait dans les années 60 à trouver des cas de pédophilie dans l'église. Donc on voit un Christ à moitié nu, les bras croisés, à côté d'une petite fille, sur les marches d'un lit majestueux avec une tête de lion. Donc tout ça, c'est une espèce de vitalité assez vertigineuse. Notamment dans ce rapport aux images.
Merci beaucoup. L'exposition Jacques Prévert, rêveur d'images, se visite jusqu'au 16 février au musée Montmartre. Elle est accompagnée, elle aussi, d'un catalogue coédité par le musée et In Fine. Merci à tous les deux pour vos avis éclairés. En attendant, chers auditeurs, de vous faire le vôtre, vous pouvez retrouver toutes les références et le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture, sur le site franceculture.fr.